Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, humains de maître, bonjour et bienvenue, vous écoutez l'onde très curieuse de ce lundi 15 juin. Aujourd'hui, grâce au docteur Franck Giraud, psychiatre, que les compagnons de l'Écho de la Réhab, ce collectif ouvert à tous et à toutes du service de réhabilitation psychosociale de l'hôpital Sainte-Marie à Privas, ont invité dans ce studio, et bien grâce à lui, aujourd'hui, on cherche comment réparer les vivants, comment recoudre le tissu déchiré du monde, comment retisser les liens, comment faire corps, comment écouter et être écouté, comment être humain et pouvoir le vivre pleinement. Être humain, c'est-à-dire vulnérable. Et on se demande aussi que peut la psychiatrie pour nous aider à être humain et vulnérable, c'est-à-dire grand dans notre humilité, respecté et considéré. La psychiatrie est-elle, peut-elle, doit-elle être un humanisme? Ce sont des questions que je me suis posées juste après notre préparation. Alors je suis très contente, docteur Giraud, d'être avec vous, avec toi. On s'est questionné là juste avant, savoir si on disait tu, si on disait vous. Bonjour Franck Giraud.
Bonjour Sophie.
Et merci d'être ici. Alors tu es venu accompagné ou l'inverse par pas mal de personnes ici. David, bonjour,
bonjour.
David. Sandrine.
Bonjour.
Guillaume.
Bonjour Sophie.
Et Hélène, bonjour.
Et Hélène. Bonjour Hélène. Derrière la vitre aussi toujours Sylvain. Salut Sylvain.
Salut, salut.
Alors on est ensemble pour évoquer tout ça. Peut-être la première des questions, c'est à vous les amis de l'écho. En voici un. Pourquoi avoir invité le docteur Giraud ici dans nos studios? Qui veut répondre? Guillaume.
À la base, c'était un de nos compagnons de route, Rama, qui avait très envie d'inviter le docteur Giraud. Mais je crois que l'ensemble du collectif était partant dans cette idée-là. On a reçu cette année surtout des artistes. On avait reçu une paire aidante, Laurence aussi. Mais il y a toujours ce questionnement qui revient pas dans toutes nos séances, mais presque sur... mais finalement, qu'est-ce que c'est que la psychiatrie? Qu'est-ce que c'est qu'un psychiatre? Et qu'est-ce qu'ils nous veulent, en fait? Cette question qui revient très, très souvent. Et on s'est dit, pourquoi pas aller directement la poser à un psychiatre? Qu'est-ce qu'ils nous veulent, les psychiatres?
Alors, Franck, Giraud, qu'est-ce qu'ils
nous veulent, les psychiatres? Méfiez-vous, ils vous veulent du bien, il n'y a pas pire.
Cependant, je rebondis sur la question de Guillaume et du collectif. C'est vrai, qu'est-ce que c'est un psychiatre et peut-être qu'est-ce que c'est un psychiatre pour toi?
Je sais pas, tu as bien défini ce qu'on peut attendre de la psychiatrie. D'ailleurs, moi j'adhère à une petite association qui s'appelle Embarcadère, Association d'usagers de la psychiatrie. Et on avait organisé il y a 3 semaines, petite causerie, on fait ça 3-4 fois par an. Et le thème, c'est « Y a-t-il encore la place pour une psychiatrie humaniste ?» La réponse était mitigée.
La réponse était mitigée. Et en quoi elle était mitigée?
Elle est mitigée parce que on y croit. Mais la foi, c'est bien, mais encore faut-il que ça puisse décliner dans une pratique du quotidien en lien avec une institution qui n'est pas commode à manier. C'est ça dont on souffre le plus en psychiatrie, c'est une institution, donc, Guillaume. Et alors la place du psychiatre, c'est ça que tu interroges? J'en sais rien, c'est ce qu'on fait au quotidien. Une place, ça se crée, ça s'invente, et ça s'invente avec les personnes avec qui on travaille. Et les personnes avec qui on travaille, c'est d'abord des gens qui viennent se soigner, ou en tout cas essayer d'aller mieux. Et puis c'est d'autres professionnels de différents métiers qui essayent d'apporter leur expérience et leur savoir-faire. Donc, la psychiatrie, c'est une vieille institution, mais qui connaît une crise qui dure. Et moi, c'est mon sujet de thèse, c'était il y a 45 ans. C'est encore d'actualité. C'est la destruction du savoir psychiatrique telle qu'elle a été mise en œuvre, qui fait qu'aujourd'hui, la définition des maladies psychiques est à peu près impossible, elle n'est pas faite. Ce qui est un vrai problème pour organiser le soin, parce que quand on est malade, qu'on est en difficulté, on a besoin de comprendre un peu ce qui nous arrive, et pour ça, il faut avoir des mots. Alors le diagnostic, ce n'est pas quelque chose qui est arrêté une fois pour toutes, ça se construit. C'est un cheminement, c'est...
Sur le temps long.
Sur le temps long, et puis surtout, ça doit permettre à la personne de s'y retrouver. Donc un bon diagnostic, ce n'est pas un diagnostic qui est vrai. La vérité, ça appartient à Dieu. Un bon diagnostic, c'est un diagnostic qui permet de travailler ensemble et d'évoluer et d'avancer. Donc bien évidemment, c'est quelque chose qui doit d'abord permettre à la personne de s'y reconnaître. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui devient très compliqué, parce que les psychiatres ne font plus de diagnostic. Je le dis de manière un petit peu abrupte, parce que c'est pas si simple.
Et pourquoi ? Quand tu dis ils ne font plus de diagnostic, c'est-à-dire littéralement pour les gens qui ne sont pas familiers de tout ça, comment et pourquoi ils ne font plus de diagnostic ?
Alors, je le formule un peu différemment. Ils ne font plus de diagnostic dans lequel les personnes puissent se reconnaître. Et en particulier, ce qui est très spectaculaire, les gens qui viennent me voir me disent tous la même chose. C'est super, hein, j'ai vu 15 psychiatres, parce qu'en ce moment, ça change tout le temps, parce qu'il y a des intérimaires, c'est comme ça maintenant. La psychiatrie est assurée par les intérimaires qui font ce qu'ils peuvent. Et à chaque fois, j'ai eu un diagnostic différent. Donc j'en ai 15. Alors je me débrouille avec ça. Mais c'est pas très commode. C'est pas très commode. Alors, historiquement, si vous voulez, il y avait la construction de ce qu'on appelle une nosographie, une classification des maladies, qui s'est élaborée au cours de un peu le 19e, mais surtout le 20e siècle, et qui, à la fin du siècle dernier, s'est cassé la gueule avec l'invasion de la nosographie américaine, qui a prétendu apporter le diagnostic à tous sans connaissance spécifique. Résultat, les diagnostics aujourd'hui, ben, ils ne sont pas fiables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'appuyer dessus.
C'est-à-dire, c'est pas de l'autodiagnostic, c'est autre chose.
Ah, l'autodiagnostic, c'est très intéressant. Moi, je ne suis pas contre, au contraire. Hein. C'est bien, c'est tout l'intérêt, c'est ça. Hein. Alors, effectivement, ça s'appelle ça le manuel diagnostique des maladies mentales, version association des psychiatres américains, qui s'est imposé au monde entier et qui a prétendu pouvoir définir les critères objectifs des diagnostics accessibles à tous, même à ceux qui n'avaient pas une formation spécifique. Résultat, au lieu de s'appuyer sur un savoir expérientiel, ça s'appuie sur un texte. Et surtout, l'absence de théorie, ça ne peut pas fonctionner parce que l'esprit humain est une dynamique. Heureusement, sinon c'est qu'on est mort. Hein. Pour qu'un diagnostic puisse fonctionner, il faut qu'il s'appuie sur une élaboration sous-jacente des mécanismes qui pourraient en rendre compte. Pas de mécanisme, pas de dynamique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, je pense que nos institutions sont en difficulté. Guillaume, tu le dis comme ça ?
Souvent on dit que le temps s'arrête en psychiatrie. Quand on est à l'hôpital, il n'y a plus cette temporalité. Hein. Il n'y a plus vraiment d'hier ni de demain. On essaye de se donner des rendez-vous, puis tout le monde le rate. C'est pas que les personnes concernées par la maladie, hein, c'est qu'on se rend compte que même les professionnels se mettent à fonctionner comme ça. Et y a besoin, pour se sortir de la maladie, de retrouver de la dynamique. Et le diagnostic en tant qu'élément de rencontre qui va faire qu'une rencontre va s'inscrire dans la durée... Va être absolument essentiel. Ça va être un des moyens de un des axes de pivot de l'échange et de la rencontre avec j'imagine avec le psychiatre, le psychologue aussi, peut-être un peu moins ou différemment en tout cas, mais
parce que Guillaume, toi tu es psychologue,
voilà.
Et
oui, tu posais la question tout à l'heure en introduction de l'humain. L'humain, c'est le sujet. Un diagnostic objectif, ça n'a pas de sens. Un diagnostic, il est forcément subjectif et il résulte de la rencontre de plusieurs personnes. En particulier une personne qui demande un peu d'assistance et une personne qui essaye de l'aider, de l'accompagner.
Alors là, justement, voilà, on va vous entendre. Alors, Hélène.
Pour le soin, je pense que c'est quand même assez difficile parce qu'on a des médicaments, mais si le diagnostic n'est pas vraiment celui qui convient, on va prendre des médicaments pour rien.
Comment, Sandrine ?
Je suis d'accord avec Hélène dans la mesure où, parfois, quand le diagnostic est posé, il n'y a plus beaucoup la temporalité humaine. Le diagnostic fait qu'on a une réponse médicamenteuse qui peut parfois être figée dans le temps pendant super longtemps, en fait.
Voilà. Et donc, c'est ce que déplore Franck Giraud, c'est-à-dire c'est plus dynamique, c'est plus ça, dans le temps long, c'est plus dynamique. À l'écoute.
Et par ailleurs, puisque tu parles de la question de la destruction du savoir psychiatrique, le vrai problème, c'est la logique consumériste du soin. Aujourd'hui, c'est pas vrai que pour la psychiatrie. On va voir un médecin, il faut qu'il vous donne un médicament. Et le médicament, il est supposé combattre la maladie. Et donc, engommer les symptômes, pour faire simple. Or, c'est pas comme ça que ça marche. Les médicaments ne nous guérissent pas toujours. On croit, par exemple, je donne une métaphore. Les antibiotiques sont supposés, pense-t-on, tuer les bactéries. C'est pas du tout vrai, c'est faux. Les antibiotiques aident le corps à éliminer les bactéries. Vous le savez, hein? Et en psychiatrie, c'est pareil. Le médicament, il n'est pas là pour enlever les symptômes. Il est là pour permettre à la personne d'en faire quelque chose et de reprendre le contrôle de sa vie. Donc un médicament, il n'est pas là. Le diagnostic, il ne sert pas à cibler un symptôme et à l'atténuer. Au contraire, il sert à cibler une dynamique de la personne, une dynamique de ses troubles, et essayer de comprendre ce qui pourrait alimenter cette dynamique. Pas contrer les symptômes. Contrer les symptômes, c'est détruire la personne. Les symptômes, ça lui appartient. Et c'est ça qui est... Alors, c'est vrai en psychiatrie, mais c'est vrai en médecine aussi. Hein. C'est les évolutions récentes qui nous... Mais en psychiatrie, on est un petit peu en retard. Peut-être. Alors, certains universitaires vont dire que je dis des horreurs, là, mais bon... Donc, on a un grand professeur qui dit « Vous avez complètement tort, docteur Giraud, nous on fait un travail formidable, le savoir avance, etc. » Ce qui est vrai. N'empêche qu'aujourd'hui, le constat dans notre pratique quotidienne, la vôtre, la tienne, c'est ça.
Donc je comprends mieux, j'avais une question, c'est-à-dire comment le diagnostic peut aider la personne à... se reconnaître, être considéré dans ce qui le touche, dans ce qu'il a, sans l'enfermer. Et donc c'est cette question de dynamique. Ok, tu as répondu à la question. David, qu'on n'a pas entendu justement sur cette notion de diagnostic, est-ce que toi le diagnostic justement t'as permis d'avancer? Enfin, y en a-t-il eu un?
Il y en a eu un après de nombreuses années, on a beaucoup erré dans la recherche du diagnostic, mais une fois qu'il a été posé, qu'on a compris comment ça fonctionnait, on a réussi à ne pas me mettre dans un état complètement aphasique, vraiment plus éveillé, avoir une vie normale en quelque sorte. Mais ça a pris 10, 15 ans, quoi.
On parle vraiment en termes de décennies, je pense, pour établir un diagnostic qui est mouvant, parce qu'il est sans cesse remis en question. Et après, il faut tomber sur des très bons psychologues, des très bons psychiatres qui vont nous remettre dans l'humain et dans la dynamique pour faire quelque chose avec notre diagnostic.
Moi, je reviens sur le problème des médicaments. En fait, on ne demande pas spécialement, nous, à avoir des médicaments, hein, du tout. Hein. Mais en fait, si on... Bon, moi, je vais au CMP. Si je vais au CMP, puis je dis, j'aimerais bien qu'on diminue les médicaments parce que ça m'en suque un peu, on va me dire, c'est plus la peine de venir, quoi. Allez voir votre médecin traitant, il va vous faire une ordonnance. Puis après, je dis, oui, mais mon médecin traitant, déjà, je vais le voir tous les 4 mois. Je n'aurai pas l'ordonnance quand ce sera le moment de l'avoir. Et puis, c'est aussi l'institution qui veut les médicaments. Ce n'est pas spécialement le malade, le patient.
Mais les médicaments sont en fait une béquille pour continuer à avancer et structurer un soin autre, comme la psychanalyse ou la psychothérapie, en contrepartie, quoi. Et ensuite pouvoir alléger ces béquilles. Moi, j'aimerais bien complètement les supprimer, mais je n'ai pas l'impression que ce soit totalement possible. Mais... Parce que ça endort beaucoup quand même, ça c'est dommageable pour chacun.
Du moment, on a l'impression de ne pas être soi. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Ils m'ont transformé mon cerveau, là, c'est pas moi.
Il y a de ça, ouais.
vous vois réagir, Guillaume.
Je crois que dans un temps où, à l'extérieur de l'hôpital, en tout cas, le temps s'accélère. Dans l'hôpital, on a l'impression que les choses s'arrêtent, se filent. À l'extérieur, les choses s'accélèrent de plus en plus. Et donc, la réponse médicament, elle est là et nous fait oublier que la relation à l'autre, c'est ça la première des choses qui va soigner. Et que souvent, le médicament, il est là pour permettre de restaurer une relation à l'autre, à minima, sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour continuer à avancer. Mais c'est pas le médicament qui va soigner. On dit, allez, prenez un médicament, puis rentrez chez vous, couchez-vous sur votre canapé, attendez le soir. Non, c'est pas ça notre conception du soin, en tout cas.
Alors, quelle est-elle, justement, votre conception du soin, à tous les deux, mais là, au docteur Giraud. On a entendu cette question de lien, d'écoute, de temps long. Est-ce que c'est déjà quelques pistes ?
On reproche beaucoup à la psychiatrie d'être totalitaire, c'est-à-dire d'enfermer la personne, et au propre et au figuré. Et c'est une critique qui est parfaitement juste. On oublie un peu les fondamentaux de la médecine. Ambroise Paré disait cette chose magnifique. Je l'ai pensé, Dieu l'a guéri. Nous, on donne des soins. Alors aujourd'hui, il est un peu athée sur les bords, mais il disait Dieu parce que c'était politiquement correct pour l'époque. Mais c'est la personne qui guérit. Le système de soins, il est là pour donner l'appui qui permet à la personne de se guérir. On ne peut pas le faire tout seul. On le constate. Freud a essayé de faire son auto-analyse, mais ça n'a pas été un grand succès, hein, Guillaume. On ne peut pas dire. Mais il n'avait pas le choix. Non, mais il était le premier. De toute façon, il n'y avait personne pour lui prêter béquille. Enfin, encore que. Mais. Aujourd'hui, effectivement, ce que vous dites, c'est vrai, c'est que ça prend du temps. Il faut être très, très, très patient. Et souvent, on me dit, ouais, mais c'est insupportable, il faut agir vite. Et donc, la tentation, c'est de dire, on donne des anxiolytiques à dose massive, pour faire simple, hein, pour abraser les troubles, sauf qu'on abrase la personne avec. Et c'est souvent pas très chouette à vivre. Donc la question, c'est de trouver l'équilibre. Alors, il y a des phases aiguës, on est d'accord, il y a l'hôpital, hein, c'est pas marrant l'hôpital, mais bon, parfois une étape nécessaire. Mais dès qu'on est sorti de l'hôpital, il faut penser les choses autrement. Et à mon avis, l'hôpital aurait bien besoin de penser ce qui fait dans l'aigu au regard de ce qui se fait et qui marche dans le long cours pour un peu moins focaliser sur son action, si c'est possible, prendre un peu plus le temps. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de place à l'hôpital, alors c'est dramatique. Hein.
On va peut-être faire... J'entends depuis tout à l'heure une question, notamment d'Hélène, de Sandrine et aussi de David. Quand ils sont sous médicaments, ils se demandent un petit peu où est leur esprit. Stop. We'll be right back. Il y a 38 ans, naissait cette incroyable chanson des Pixies, Where Is My Mind, issue de l'album Surfer Rosa. C'était en 1988 et c'est le choix de notre invité Franck Giraud. Pourquoi cette chanson ?
Parce que je l'adore. Et en plus, parce que les Pixies, ils sont encore vivants. Ils sont encore vivants.
Et ils jouent à Nîmes, c'est ça ?
Ils jouent bientôt à Nîmes, ouais. Ils passent début juillet au Festival de Nîmes.
On est avec le docteur Franck Giraud, mais aussi avec David, Sandrine, Guillaume, Hélène de l'Écho de la Réhab, du centre hospitalier de l'hôpital Sainte-Marie, de Privas, pour parler ensemble avec toi, et enfin avec vous tous, mais grâce à toi aussi Franck, de la psychiatrie et du rôle ou de la conception plutôt de la psychiatrie que toi tu as, que toi tu portes. Tu parles de psychiatrie humaniste ou psychiatrie de secteur. On a parlé du soin, ta conception du soin. J'aimerais juste que tu nous précises un peu comment tu abordes justement la prise en charge, pour qu'on se représente. Une personne vient te voir, comment tu la soignes, comment tu prends soin d'elle?
La première chose, c'est de l'écouter, de savoir ce qu'elle pense d'elle-même et ce qu'elle attend. On parlait de diagnostic. Je fais une petite fiche à ceux qui viennent dans le service, remplissent leur petite fiche. Je leur demande, de quelle maladie pensez-vous souffrir? Quel est le diagnostic porté par votre médecin? Des fois, ça se recoupe. Le plus souvent, pas du tout. C'est dans ce hiatus-là qu'il y a quelque chose à construire.
Et vous? Alors, Hélène, Sandrine, David, qu'est-ce que vous aimeriez justement comme prise en charge? Comment vous voudriez qu'on prenne soin de vous?
Alors en fait, bon, quand on a un problème, on va voir d'abord l'infirmière, CMP, enfin voilà. Et moi, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, tout de suite, c'était médicaments. Je me suis dit, oh là là, médicaments, ça y est, me voilà parti encore dans un truc que je vais pas arriver à cerner. Et puis, au bout de 2 mois, on rencontre un psychiatre, si on veut bien. C'est pas obligatoire. Et bon, ben, j'étais tout à fait d'accord. Je me suis dit, bon, ben, je saurai au moins où j'en suis. Et puis on discute, là, c'était une dame très, très gentille, très bien. Donc j'ai parlé pendant, je sais pas, elle me laissait parler, je parlais. Et puis à la fin, elle me dit non, mais vous. Non, bah, c'est une sévère dépression. Quoi. Bon, ok, sévère dépression, moi je ne connais rien, hein, j'ai accepté ça. Et puis après, bah, on retourne voir l'infirmière. Et puis à nouveau, on a un autre psychiatre qui soigne. C'est pas la même que la personne qui nous a vu la première fois. Et là, alors, c'est l'ordonnance, quoi. Voilà, en fonction de ce que dit aussi l'infirmière. Mmh. Parce que l'infirmière, on la voit beaucoup plus régulièrement, c'est à peu près une fois par mois. Mmh. Et puis le psychiatre, si ça va avec l'infirmière, on voit pas de psychiatre des fois pendant un an. Hein, c'est... Au CMP, ça fonctionne de cette façon-là.
Là, tu as décrit le réel. Oui. Qu'est-ce que tu attends, toi?
Qu'est-ce que j'attends, moi? En fait, je trouve que... J'ai vu deux infirmières, enfin un infirmier et une infirmière, et en fait, les personnalités étaient très différentes. Et le premier que j'ai vu qui est parti, c'était très humain. Et ça, j'ai vraiment apprécié parce qu'on pouvait vraiment parler de problèmes. C'était presque un psychologue, en fait. Et donc là, oui, j'avais l'impression d'être écoutée et de. Enfin, il y avait un bon retour. Donc, en fait, ça dépend énormément de la personnalité de l'infirmier, du psychiatre. C'est très, très différent. Et le deuxième, l'infirmière suivante, alors c'était vraiment tout de suite, c'était très, très carré. J'avais presque l'impression de passer au tribunal, quoi. Enfin, vous voulez pas ça, mais c'est pas ceci, mais c'est pas cela. J'ai l'impression d'être bousculée. Et puis finalement, la psychiatre m'a dit, bon, ben, vous viendrez me voir tous les 3 mois, et puis voilà, on va se passer d'infirmière, quoi. Donc, c'est très, très différent, et bien sûr qu'on aime quelqu'un qui est plus humain, ça, c'est absolument évident.
Mmh. Sandrine, tu...
Je rejoins Hélène sur le fait qu'on a besoin de relations humaines pour qu'on prenne soin de nous. Pour ma part, j'ai eu la chance de tomber sur des médecins et des psychiatres qui m'ont toujours écoutée, puisque j'y suis depuis que j'ai à peu près 15 ans. Et les diagnostics sont évolutifs dans mon cas, avec un nouveau diagnostic qui est en cours actuellement. Et je rejoins aussi David sur le fait que les médicaments nous mettent parfois dans un état un peu second. Mais par contre, moi, ça m'a énormément servi et je remercie les ordonnances. Voilà. Parce que sans avoir failli une seule fois à mon traitement, c'est vraiment ce qui m'a permis d'accepter tout l'autre côté humain et thérapeutique avec les psychologues, notamment, pour m'en sortir, en fait.
David ?
Moi, je serais plutôt part d'une expérience de ce que j'ai compris, de l'importance de la relation entre le psychiatre et le patient, voir ça comme une collaboration et pas comme une lutte, en quelque sorte. Parce qu'on est dans une phase un peu de patient, de méfiance. J'avais cette méfiance. Et plus je me rapprochais, je faisais un pas vers le psychiatre, et plus il en faisait vers moi, en fait, plus la collaboration se mettait en route, et plus on avançait dans le diagnostic et dans des médicaments qui sont plutôt efficients, quoi, et pas trop surdosés ou pas assez. Quand il y a la confiance, je pense que c'est le bon terreau vraiment pour tout, quoi. Mais ça passe aussi par ne pas changer de psychiatre tous les 4 mois, quoi. Ce qui est fréquemment le cas en psychiatrie, malheureusement.
Et oui, une relation de confiance sur la longue durée. Docteur Giraud.
C'est l'essentiel de notre travail. Construire une relation positive avec les gens qu'on accompagne, qui nous connaissent, parce qu'on prétend les connaître. On leur pose des tas de questions, mais ils ont le droit de poser des questions aussi, ils ont le droit de savoir qui on est. Et faire des expériences positives et aussi des expériences négatives qu'on traverse. C'est ça qui cimente une relation de long cours. Et donc, les gens qui prétendent faire des miracles, bon, très bien, tant mieux, hein, ça peut arriver. Hein. Mais en général, ça prend des mois, ça prend des années. Et c'est comme ça que ça fonctionne.
Justement, tu dis, on peut poser des questions. J'ai envie de poser des questions au docteur Giraud. Pourquoi tu t'es intéressé à la psychiatrie spécifiquement ? Est-ce que avant même, quand tu t'es formé à la psychiatrie, qu'est-ce qui t'a mené là ? Qu'est-ce qui t'animait ?
Bah, je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est très clair.
Donc, un lien humain de longue date, là aussi, une relation de longue date avec la psychiatrie. Tu peux peut-être ajouter.
J'ai quelqu'un de ma famille comme ça qui est proche et qui s'est posé la question de son devenir et qui avait un père psychiatre et une mère infirmière et qui donc a choisi de faire un métier très très différent, psychologue. Et quand elle était petite, elle a croisé beaucoup de gens dans le privé et elle les a trouvés sympas, chouettes, et elle sentait que il y avait quelque chose et ça lui a donné envie de travailler avec eux. C'est ce qu'elle fait maintenant. C'était peut-être arrivé quelque chose comme ça, Guillaume, être à nous tous.
C'est au carrefour de soi-même et de la rencontre de l'autre, forcément. C'est plein de questions sur soi-même qui amènent là. Et c'est et le jour où on commence à comprendre que dans la rencontre avec l'autre, ça nous apportera beaucoup plus que de se creuser les méninges tout seul, il se passe des choses très positives.
Ouais. On faisait hier un petit atelier qui s'appelle l'atelier de citoyenneté, on essaye de parler un peu de politique, au sens de vivre ensemble. Et les personnes qui étaient présentes m'ont dit « Mais alors, docteur Giraud, au fond, les soignants, ils se soignent dans nos soignants ?» Alors j'ai rigolé, j'ai dit, mais vous, ça vous fait du bien de faire du bien aux autres ? Ils ont dit, ah ouais, vraiment. J'ai dit, ben nous, c'est pareil. Donc on fait la même chose, on le fait ensemble.
J'aimerais, ou alors on termine là-dessus, mais ça tend vers une autre question qui est, au-delà de ça, on parle là des relations, évidemment, humaines qui sont nécessaires, des relations de confiance de longue durée, on l'a dit, dans un tissu, justement, social, qui devient de plus en plus abrasif ou qui se défait un peu, comment peut-on ne pas être malade dans une société qui l'est Non, je ne sais pas, je diagnostique, c'est un diagnostic en évolution. Non.
Bah, on souffre tous du délitement du lien social, c'est évident. Cela dit, être un être humain, c'est compliqué, c'est douloureux, c'est pas nouveau. Mais ça n'empêche pas que la vie soit belle. Mais c'est pas simple, oui, on est dans une culture qui traverse des crises. Mais c'est pas nouveau, Freud a écrit un livre en 1932 qui s'appelait « Malaise dans la civilisation ». Et c'est toujours vrai.
Non, on se regarde avec Sophie, là. Je pensais à Carole qui avait envoyé un texte, je sais pas si c'est possible de l'entendre ou pas.
On va terminer là-dessus.
Oui.
Connaissance de soi. Connaissance de soi implique beaucoup d'isolement. Les autres étiquettent hasardement et éloignent parfois encore plus. Ce n'est pas du narcissisme, tout devrait commencer par là, la connaissance du soi, avant d'interagir dans le monde avec les autres. Les autres peuvent néanmoins parfois faire miroiter certaines facettes du soi. Se connaître est une force enracinée qui trame le respect ou le rejet. Du respect comme du rejet, les autres savent à qui ils ont affaire et ne sont pas surpris ni déçus, pareil à toutes les personnalités entières. Pendant ce temps, toujours dur de se trouver dans les méandres identitaires. C'est triste d'avoir à mourir un jour sans avoir occupé sa vraie personnalité. Carole.
C'est très riche.
Très beau.
Est-ce que certains veulent prendre la parole là-dessus ou... On va terminer avec ces mots, alors, avec les mots de Carole. Merci à toutes et tous, docteur Giraud, Franck Giraud, psychiatre, Hélène. Merci à toi, Guillaume. Merci Sandrine. Merci David.
Merci.
D'être venu. Et merci Sylvain d'être venu aussi jusque-là. Merci à vous toutes, auditrices, auditeurs. Restez à l'écoute de Fréquence 7, puisque les programmes continuent. À 13h, vous retrouvez Sam Travail. À 15h, c'est le Telex. À 16h, l'Imaginoire. À 17h, la rediffusion de cette onde curieuse. À 18h, Solidaire d'abord. À 18h45, Central Park. À 19h, tu danses. À 20h, chez Tonton. Et à 21h, Hexagone Jazz. Ciao.